Bon matin. Et bonne année 2022. Malgré les circonstances, avec la COVID, on est encore retourné sur Internet et le présentiel est fini. Mais bon, je me dis, le Seigneur est avec nous. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Toutes choses. Même ce qui nous arrive. Alors, rendez grâce. Rendons grâce en toutes choses. Et ce matin, j'aimerais qu'on prenne un texte de l'Évangile de Matthieu. C'est dans Matthieu 22, la parabole du banquet. C'est un passage qui m'a fait du bien et j'espère que ça vous fera du bien à vous aussi. Et si on priait avant de commencer. Grand Dieu, on veut se placer devant toi et te remercier en toutes choses, te louer, t'exalter, t'honorer. Et maintenant qu'on va ouvrir ta parole, on veut te remercier aussi pour ce bienfait que tu nous donnes. Et on te prie d'ouvrir nos yeux, les yeux de notre cœur pour comprendre et être enrichi par ce que tu veux nous dire. Parle-nous, Seigneur, par ta parole, pour la gloire de Dieu et au nom de Jésus. Amen. Donc, la parabole du banquet, c'est une troisième parabole que Jésus a donnée. Quand il y avait des tensions avec les responsables juifs, et puis il y a eu la parabole des deux fils, ensuite la parabole du vigneron, et puis dans chacune de celles-là, même si c'est un climat assez chargé, Jésus essaye de les encourager à recevoir le Messie, à le recevoir, à recevoir leur roi. Et je pense que c'est une marque d'amour que malgré leur opposition, ils cherchent à aller les gagner. Et donc, de la lire dans cet angle-là, je le trouve intéressante et enrichissante. Lisons ensemble et ensuite on va la reprendre verset par verset. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors vous voyez, c'est un peu lourd comme contexte, et puis comme je vous disais, c'est la troisième des paraboles. Et là, il prédit le sort du peuple et des responsables, de ce qui va leur arriver, à eux qui ont eu le privilège en premier d'être appelé aux noces, d'être appelé à connaître le Messie. Et le peuple était indécis, les responsables étaient opposés, et Jésus leur amène encore un autre enseignement pour les faire réfléchir, pour les attirer à lui. Et on va reprendre un petit peu là, mais juste de voir le contexte, là, j'ai pris ici le verset qui vient avant, juste avant au chapitre 21. On lit « Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, la parabole des vignerons, et ils cherchaient à se saisir de lui. » Alors, on voit bien que ça s'est étendu. « Mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. » Et là, notre texte commence. Et prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi. » Et le roi, ça nous parle de l'importance de la personne, de celui qui fait l'invitation. Ce n'est pas une invitation qui vient de n'importe qui. Et ce n'est pas des circonstances aussi ordinaires. Un roi qui fit des noces pour son fils. Dans la vie d'une personne, des noces, c'est très important. Dans la vie d'un royaume et d'un roi, le mariage du prince héritier est aussi très important. Et donc, c'était pour une circonstance très exceptionnelle que le roi va faire des invitations. Et des mariages, ça nous fascine, des mariages de la royauté. Et puis, on n'a qu'à penser, si on voit... le mariage d'un des... Excusez, là, je ne connais pas très bien la famille royale, là, mais je pense que c'est William ou Harry qui récemment se sont mariés. Et puis, au mariage de William, il y avait 23 millions de personnes qui ont regardé le mariage. Et puis, celui de Harry, 29 millions. Mais ça, c'était rien à comparer de leur père. Quand leur père s'est marié en 1981, 750 milliards de personnes ont regardé le mariage. 750 millions de personnes ont regardé ce mariage-là. Et donc, c'est une circonstance qui nous fascine, mais qui est très importante. Et si le roi nous invitait... c'est sûr que toute dépense payée vient au mariage de mon fils. Il faudrait vraiment des bonnes raisons pour ne pas participer. Et puis, on sait que le roi, il ne va pas négliger aucune dépense, il ne ménage rien de budget illimité pour cette circonstance exceptionnelle. Et puis, tout le monde aurait aimé participer. Ça, c'était au... un des récents mariages de William ou Harry. Et puis, les rues étaient couvertes de monde. Là, c'était juste une petite portion de personnes qu'on voit qui auraient tous aimé participer, assister à ce mariage-là pour se réjouir avec eux. Tout le monde voulait participer. Mais Jésus nous dit, au verset 3, qu'il envoya ses serviteurs... il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Et là, c'est un gros malaise. En bloc, tous les invités refusent de venir pour une circonstance si exceptionnelle et si importante pour le roi. C'est une insulte. Comment est-ce qu'on pense que le roi va réagir? Mais avant de parler de ça, on va déjà essayer de décoder un peu et de regarder, essayer d'interpréter la parabole. Donc, le roi, quand Jésus raconte la parabole, il y a quelque chose en tête. Le roi, ça représente Dieu. Le fils, c'est Jésus. Ça, je pense, c'est clair. Les noces, maintenant, on a des indices que les noces, c'est les noces de l'agneau. L'union de Christ, le Messie, et de l'Église, qui est composée de juifs et de non-juifs. On a ici un passage dans Éphésiens 5, Marie, que chacun aime sa femme, et là il fait le parallèle, comme Christ a aimé l'Église, son épouse, et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, c'est sa fiancée, je devrais dire, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc, les noces, c'est les noces de l'agneau, l'union de Christ avec l'Église. Et les invités, maintenant, les invités représentent les Juifs de l'Ancienne Alliance. Et puis, on a un passage de Jean-Baptiste où est-ce qu'il dit, « Celui à qui appartient l'épouse, l'Église, c'est l'époux, Jésus. Mais l'ami de l'époux, et c'était Jean-Baptiste, et les saints de l'Ancienne Alliance, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. » Donc Jean-Baptiste se réjouissait à l'idée que le Messie arrivait et qui s'unirait avec l'Église, avec des humains. Donc les noces, les invités, et on a les serviteurs aussi qui sont envoyés pour inviter les invités. Les serviteurs étaient les prophètes de tout l'Ancien Testament, longue série de prophètes, parce que Dieu a souvent, depuis la chute au Jardin d'Éden, a appelé l'être humain pour être en relation avec lui, pour être réconcilié avec lui. Il a envoyé des prophètes. Jean-Baptiste était un de ces prophètes-là, et Jésus était aussi dans le rôle de prophète, appelant les gens à la repentance, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. Jésus avait le même message que Jean-Baptiste et invitait les gens à se repentir. Les disciples de Jésus ont aussi été des serviteurs pour inviter les gens de leur entourage à venir à Jésus. Et nous aussi, on est aussi de ces serviteurs-là qui invitons nos semblables à venir à Jésus. Et le refus, parce que ils ne voulurent pas venir, que ça dit le texte, c'est le rejet de Jésus comme Messie. Donc, ça nous donne un petit peu de repère pour comprendre la parabole. Et on voit ici, donc, en bloc, ils ne voulurent pas venir. Et puis, c'est ça, je demandais, qu'est-ce qu'un roi ferait habituellement suite à une insulte de ce type-là? Et c'est ça qui est surprenant ici. C'est comme si Jésus, justement, en révélant le royaume de Dieu, puis c'est une parabole, le royaume de Dieu est semblable à un roi qui fait des noces, qui invite aux noces de son fils. Et là, il présente justement à quel point Dieu est différent des rois que l'on connaît sur la terre. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant aux conviés, « Voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, désolé pour les véganes, tout est prêt, venez aux noces. » Et encore une fois, donc, Dieu invite, Dieu envoie des serviteurs pour les inviter, Dieu est gracieux. C'est une grâce incroyable envers ceux qui ont offensé sa beauté, sa bonté, c'est-à-dire, il aurait pu leur en vouloir de l'avoir méprisé, d'avoir méprisé son fils, méprisé son honneur, mais il les invite encore. Et puis, Jésus était là justement à leur raconter cette parabole pour les inviter à réfléchir, puis à penser à toutes les conséquences que ça pourrait avoir pour eux, le rejet du Messie. Et puis, il y a un passage au début du livre de l'Épître aux Hébreux. Au tout début, ça dit, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qui lui aussi invitait. » Fait qu'il n'a pas arrêté d'inviter. Et puis, dans ses invitations, ben, il demande une réponse. Et puis, des fois, ça l'embarrasse. Il demande de prendre position. Donc, quand il dit « Tout est prêt, venez », il essaie de, encore une fois, de convaincre les conviés d'accepter l'invitation. C'est tellement gracieux. Et là, par cette expression-là, il est en train de leur dire qu'il est encore temps d'accepter l'invitation du Messie. Puis il est encore temps aujourd'hui aussi d'accepter l'invitation du Messie. Donc c'est ça. Au verset 4, il envoie d'autres serviteurs. Tout est prêt, venez aux noces. Verset 5, mais sans s'inquiéter de l'invitation, tout à fait indifférent. Ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Et là, j'aimerais ça faire une petite parenthèse. Je vais sortir du texte un petit peu pour essayer de réfléchir à la situation, à notre texte. Supposons que les serviteurs aient eu d'autres idées. Ils connaissaient un petit peu le genre de conviés, les invités. Et puis, peut-être qu'il aurait pu leur passer des idées par la tête. Avant d'aller rencontrer les conviés, les invités, peut-être qu'on pourrait faire une réunion de serviteurs pour trouver des stratégies. Comment être plus efficace pour faire les invitations. Peut-être qu'on pourrait participer à des conférences sur les manières de faire des invitations. Des meilleures invitations, plus convaincantes. Ça semble tout bon et légitime. On pourrait faire une réunion des serviteurs pour louer la grandeur du roi. C'est toujours une bonne idée de louer la grandeur, d'admirer, d'être reconnaissant envers le roi. Peut-être qu'on pourrait se rencontrer pour prier et jeûner pour que les invités acceptent l'invitation. Ça semble tout à fait raisonnable. Peut-être qu'on pourrait lire la Bible pour mieux connaître le roi. Vous voyez peut-être où est-ce que je veux en venir. C'est que des fois, il nous vient un paquet d'idées pour être meilleur, mais aussi pour reporter un peu à plus tard quelque chose qui pourrait nous être désagréable. Et puis, je vous pose la question, comment est-ce que le roi se sentirait si ses serviteurs font toutes ces choses-là ici, mais n'obéissent pas à l'ordre du roi? Dans Actes 1-8, Jésus dit, Jésus ressuscité, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous. » On sait la suite. Est-ce que c'est « Vous irez à des conférences sur l'évangélisation? » Super de bonnes choses. « Vous ferez des concerts? » Très intéressant. « Vous écouterez des louanges sur YouTube? » J'aime beaucoup ça. C'est bien. C'est merveilleux. « Vous ferez des réunions de prière? » Etc., etc., etc. Non, le texte dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Le Saint-Esprit, c'était pour être des témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, même au Québec. Il veut qu'on aille de fait de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations, même le Québec. Là, mon but, c'est pas de mettre la pression de manière charnelle, humaine, et peut-être que c'est déjà fait, que je vous ai rendu mal à l'aise. Mon but, c'est de nous sensibiliser à l'importance d'avoir les priorités et le cœur que Jésus avait envers les brebis perdues, qui voulaient les trouver, qui voulaient les chercher. Et peut-être qu'on ne voit pas les gens qui nous entourent de cette manière-là. Peut-être que les serviteurs voyaient les convier comme étant des indifférents, des personnes hostiles, des personnes agressives, vraiment pas ouvertes. Et Jésus est très conscient de ça. Lui aussi, en rencontrant les pharisiens, les chefs, il rencontrait ces personnes-là. Mais au-delà de ces traits de caractère-là, il voyait chez eux des gens qui avaient des besoins. Pensons à nous, avant de devenir chrétiens. Peut-être qu'on était indifférent, hostile, agressif, mais on était aussi, comme il dit ici, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. C'est Jésus. Fait qu'il sait bien que la foule est indifférente par moments ou agressive, mais il est quand même ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante. Languissante, c'est sans énergie, sans force, à bout, abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc, sa perception des gens est très particulière. Et peut-être qu'on n'a pas cette perception-là. On n'a pas son regard sur les gens qui nous entourent, sur les brebis perdues. Nous autres, comme je disais, on était peut-être comme les gens, comme les conviés, mais on était aussi des brebis perdues. La vie faisait pas de sens. On cherchait à satisfaire nos besoins par le plaisir, par toutes sortes de distractions, pour oublier le vide, le besoin qu'on avait à l'intérieur de connaître Dieu, ce qu'on reconnaissait pas du tout. Mais Jésus, justement, les voyait d'une manière différente. Et ici, on a un autre passage où est-ce qu'on voit le trait de personnalité, de caractère de Dieu. Quand il parle dans Jonas au sujet de la ville de Ninive, rappelons-nous que la ville de Ninive avait été en guerre avec Israël, avait fait beaucoup de mal à Israël. Et là, Jonas avait été envoyé à Ninive pour leur annoncer la repentance. Et lui, il ne voulait pas qui se repentent parce qu'ils voulaient que Dieu soit fâché contre Ninive et la détruise. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et là, ils voulaient que Dieu détruise les ennemis d'Israël. Et Dieu le reprit en disant, « Et moi, est-ce que j'aurais pas pitié de Ninive? Toi, tu as eu pitié d'un petit ricin, une petite plante qui est née un jour puis qui est morte le lendemain ou le soir. » Toi, tu as pitié d'un petit arbre comme ça, et moi, j'aurais pas pitié de Ninive. Ben voyons donc. Et la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes, ben oui, c'est ma nature d'avoir pitié et compassion, même de Ninive, même des ennemis, même des gens agressants, désagréables. Et peut-être qu'on n'a pas cette force-là. C'est pour ça que j'ai mis comme titre ici, il nous faut demander la force d'accomplir ce que Dieu nous demande. Et Dieu le sait qu'on n'est pas capable. Dieu le sait qu'on ne voit pas les gens de sa manière, qu'on n'est pas naturellement compatissant. Il veut qu'on vienne à lui, change mon cœur, donne-moi tes yeux, ton regard envers ces personnes-là. Dans Proverbe 11, 30, on lit, « Le fruit du juste est un arbre de vie. » Et celui qui gagne des âmes est sage. Donc, si on veut savoir si une personne est sage, la personne sage gagne des âmes. Et peut-être qu'on se dirait, je ne suis pas très sage. Qu'est-ce qu'on fait? Mais justement, ça nous dit, dans Jacques, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, manque de l'aspiration à gagner des âmes, mais qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et je peux dire que, oui, Dieu change nos cœurs quand on lui demande. Quand on confesse qu'on est inadéquat et qu'on a besoin de son aide, il veut nous transformer. Mais il veut qu'on le lui demande aussi. Et pour qu'on obtenir cette sagesse-là, il veut répondre à nos prières et à nos besoins. Donc, on est ici au verset 4 et on passe au verset 5. « Que sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en alla, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. » Et puis, on voit que c'est pas immoral d'aller à son champ ou à ses affaires, sa business. Et que les gens sont simplement occupés. Et des fois, c'est pas méchant, mais juste par le fait d'être distrait, occupé, de pas avoir pensé, on oublie une priorité comme celle de venir, de répondre à l'invitation à Jésus. On est attiré. Et puis ça fait penser comme dans le temps de Noé. Jésus disait dans Luc 17 que les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, donnaient leurs enfants en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Et là, c'est un petit peu comme ça. Ils sont absorbés par leur travail, par leur priorité. Et puis, ils passent à côté d'un privilège exceptionnel que d'être invités aux noces royales. Et les autres se saisirent des serviteurs, que le texte nous dit. Les outragèrent et les tuèrent. Et là, on voit qu'il y a une opposition plus ouverte, plus sévère. Et le roi va devoir intervenir pour faire régner l'ordre dans son royaume. Il ne peut pas accepter un comportement aussi immoral que celui-là. Et pourquoi cette opposition-là? Si on cherche des indications publiques, bibliques, c'est dit que la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres était mauvaise et que la lumière mettait en évidence ces œuvres mauvaises-là. Si j'annonce de venir à Jésus comme sauveur, sauveur de quoi? Sauveur de tes péchés. Moi, péché? Non, moi, je suis une bonne personne. Et c'est sûr que c'est offensant. Et donc, il y a cette opposition naturelle même. J'ai beaucoup aimé la semaine dernière la capsule hebdomadaire de la Chapelle Junior, là, Jérémy, il parlait du roi Hérode qui s'opposait à ce qu'un autre roi règne sur Israël, un autre roi que lui. Et donc, qui voulait tuer les bébés qui sont nés à l'époque en espérant tuer le Messie qui était né à Bethléem. Et Jérémie faisait la remarque qu'on a tous à l'intérieur un petit Hérode qui ne veut pas naturellement que Dieu règne sur nous. On a tous dans notre cœur de chair un petit pharisien qui veut faire la religion à sa manière et qui va entrer en rapport avec Dieu de sa façon. C'est bon d'identifier le problème. Pourquoi est-ce que je m'oppose à Dieu? Pourquoi est-ce que je viens pas? Pourquoi je reçois pas son invitation avec joie? Et ça me fait penser, quand moi je suis devenu chrétien, avant de devenir chrétien, on m'avait présenté l'Évangile. Et puis, quand j'ai tout compris à un moment donné, le mécanisme, que j'étais pécheur, que Jésus était mort sur la croix à ma place pour porter mes péchés devant Dieu afin que moi je puisse être pardonné, là, j'ai eu peur. J'ai eu peur de ce que Dieu me demanderait si je venais à lui, si je lui donnais ma vie. Et je voulais pas que personne, même pas Dieu, règne sur ma vie, règne sur mon cœur. Et j'ai dit clairement non. Quand la personne m'a invité à recevoir Jésus, j'ai dit non, je ne veux pas prier. Et donc, ça a été un cheminement pour moi de comprendre mon opposition, mon péché, et comment encore plus j'avais besoin de venir à lui, besoin de son aide. Est-ce que je me suis amélioré avant de venir à lui? Non, j'ai pas pu. Ce que j'ai fait, j'ai demandé son aide. J'ai vraiment besoin de toi. Si tu m'aimes, si tu as accepté de souffrir comme ça par amour pour moi, si tu m'invites dans ton royaume, ben j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de ton aide. Je l'accepte. Merci. Et c'est comme ça que je suis devenu chrétien. Et Dieu nous transforme. Ce n'est pas nous qui nous transformons et qui devenons meilleurs pour pouvoir venir à Dieu. Non, on vient à Dieu tel qu'on est, mais il nous aime assez pour ne pas nous laisser tel qu'on est et pour nous transformer. Continuons le texte. Ici, on voit comme de raison que le roi fut irrité, il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers, ceux qui avaient tué ses serviteurs, et brûla leur ville. Et là, on voit un rapport assez proche avec ce qui s'est passé à Jérusalem littéralement. 40 ans après que Jésus ait prononcé ces paroles, 35-40 ans, les Romains sont venus, ont encerclé la ville, ont détruit Jérusalem, ont détruit le temple de Dieu. Et donc, c'est cette même conséquence, le même sort qui attend les chefs religieux après avoir tué Jésus, après avoir tué plusieurs disciples de Jésus, qu'il y était envoyé pour les inviter, que Dieu va faire périr ses meurtriers et brûler leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. » Et dans le fond, personne n'est digne par nature, mais tout ce qu'il nous demande, c'est de vouloir l'invitation. Tu n'as pas rien à faire. Tout est prêt. Les noces sont prêtes. Tu as juste à l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas, tu n'es pas digne. Si tu tues les meurtriers, si tu les outrages, tu n'en es pas digne. Si tu préfères aller travailler dans les champs et toute autre distraction, tu n'en es pas digne de l'invitation. Et on voit Jésus qui avertissait justement encore une fois dans Luc 19, un petit peu avant, il avait dit... Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et là, c'était des gens, donc, qui étaient opposés à lui. Et on voit sa compassion, il a pleuré sur elle. Il dit, « Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront. Et toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ils n'en étaient pas dignes. Ils n'ont pas voulu de l'invitation. Et par ça, ils ont montré qu'ils n'en étaient pas dignes. Donc, on a lu qu'ils n'en étaient pas dignes, et la suite du passage, on voit que le roi envoie encore des serviteurs. Allez donc, encore une fois, dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Et peut-être que c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans les carrefours, dans les chemins? C'est comme une invitation publique, un appel à tous. Si tu veux, si ça t'intéresse, ben viens, il y a de la place pour toi, sans discrimination. Le seul critère, c'est de vouloir accepter l'invitation et de venir tout de suite. C'était le seul critères pour pouvoir participer aux noces royales. Et peut-être que Ici, on voit qu'il renvoie encore ses serviteurs. Mais peut-être que pour nous aussi, on a encore des invitations à donner aux gens qui nous entourent. Allez donc. Peut-être que notre entourage a rejeté notre message ou il a été indifférent. Mais il y en a d'autres personnes. Passe au prochain. Décourage-toi pas. Continue à inviter. Et puis, n'importe qui, tout le monde, sont tous importants. Et c'est ça que ça fait penser là, quand il dit les méchants et les bons. Hein. Les méchants, c'était peut-être les collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise vie. Les bons, c'était peut-être les bons pharisiens qui essayaient d'accomplir la loi, mais qui n'en étaient quand même pas capables. Et dans le fond, on est tous méchants, plus ou moins méchants. Mais ils disent, c'est pas grave, là, un comme l'autre, venez, la porte est ouverte. On voit ici, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant et disant, il dit, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. On voit qu'il y avait de la place pour les inviter, eux aussi. Jésus a donné l'exemple d'inviter des hachés. Et je vois ici, qu'est-ce qu'on trouve dans les rues comme ça? Tu sais, c'est les gens qui n'ont peut-être pas de travail, qui comme cette dame-là, là, tu sais, infirme, qui doit quêter, des quêteux, là, des infirmes qui se voient invités. Quoi? Moi? Aller aux noces du fils du roi? Ouais! Ben oui, ça m'intéresse, c'est sûr, ça m'intéresse. Oui, je vais y aller, mais c'était incroyable de voir peut-être qu'il y avait des femme de mauvaise vie dans la poignée dans la prostitution. Oui, il y a de la place pour toi. Viens. Peut-être qu'il y avait des hommes pris dans la drogue. Toi aussi, il y a de la place pour toi. Tu peux venir. Aux noces du fils du roi. Il y avait de la place pour le méchant comme le bon. Puis j'aimais cette image-là ici. On voit quelqu'un qui vient voir un sans-abri. Et c'est comme si c'était le serviteur qui invite, qui donne l'invitation de venir au repas de noces. Oui, oui, toi aussi tu peux venir. Il y a de la place pour toi. C'est ouvert. L'entrée est large ouverte. Grande ouverte. Et là, on a, Jésus rajoute dans sa parabole comme une tournure d'événement. Au verset 11, on lit que le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et le texte nous dit qu'il était déjà allongé, donc il était déjà prêt aux autres à manger, là, puis il était super content, super excité. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme-là eut la bouche fermée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'apparemment, les habits étaient fournis gratuitement. Un petit peu comme les tuniques pour ceux qui chantent dans une chorale, qui sont offerts aux choristes. Et puis, c'est sûr, si les gens étaient venus directement des carrefours et des chemins, ben il n'y avait probablement pas avec eux leur habit de noces. Et même s'ils avaient pu retourner à la maison, il est fort probable qu'à la maison, il n'y avait pas des vêtements qui convenaient à des noces royales. On n'a pas ça naturellement sur le champ. Mais quand on y pense bien, si le roi est gracieux assez pour aller dans les chemins comme ça, puis inviter tout le monde qui sont là, peu importe leur mérite, eh bien, il va être assez gracieux aussi, mais sinon, il serait un insensé de les rejeter, de les refuser, simplement parce qu'ils n'ont pas l'habit royal. C'est donc parce qu'il les fournissait. Et puis, les gens n'étaient pas méritants assez pour venir à ces noces-là. Et puis, les gens aussi étaient pas, avaient pas les moyens pour se payer un habit, mais ils pourvoyaient à l'invitation et ils pourvoyaient aussi à l'habit. Pour leur fournir tout ça, tout était gracieusement fourni. Alors, c'était quoi le problème de ce type-là, qui était là sans habit de noces? Faut croire que peut-être que son problème, c'était qu'il était assez orgueilleux pour penser pouvoir participer aux noces selon ses propres conditions, selon ses propres critères, à sa façon, ses propres habits, ses propres conditions. Il avait voulu faire à sa tête, à sa manière. Et là, sa bouche était fermée. Pas d'excuses, pas de raison, autre que son entêtement et son orgueil. Et il y a plusieurs passages dans la Bible qui viennent éclairer ce qui semble ici peut-être difficile à comprendre. Pour nous, qu'est-ce que ça représente, ces habits de noces-là? Les habits de noces, c'est la justice et le salut que Dieu donne. Et je vais vous montrer quelques passages qui nous aident à comprendre. Dans Genèse, au chapitre 3, verset 7, quand Adam et Ève ont péché en prenant le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures pour cacher leur nudité, leur culpabilité. Et c'était une façon de se défendre. Et Dieu a dû, au verset 21 du même chapitre, l'Éternel, Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Donc, il y avait un animal qui avait payé de sa vie, qui avait versé son sang, pour que Adam et Ève puissent être couverts dans leur nudité. Et il les en revêtit. Dans Ésaïe 54, 6, on lit « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nos vêtements naturels, c'est des guenilles. Et on a besoin que Dieu nous donne d'être revêtus différemment pour être acceptables. » Et la façon d'être acceptable qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est dit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » On voit plus loin, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ qui vient habiter en nous, qui vient marcher en toute justice en nous. Colossiens 3, 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. Fait que nos guenilles, on doit s'en départir, s'en dépouiller, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et c'est peut-être ici un des passages de l'Ancien Testament le plus éclairant. Ça dit dans Ésaïe 61, « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Moi, je n'avais pas ces vêtements-là. Lui me les a donnés, les vêtements du salut. Il y a plusieurs autres passages aussi. On voit que ailleurs, il y avait le sacrificateur Josué qui avait des guenilles qui étaient tout sales et puis qui est revêtu de vêtements propres, plus lavés. Dans Éphésiens 2, 8, on lit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ses habits de justice, de salut, les vêtements de salut, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, c'est pas par notre propre justice et par nos propres vêtements, afin que personne ne se glorifie. » Donc, on voit un petit peu le thème qui est symbolisé par ces vêtements de noces, les habits de noces. Donc, cet homme eut la bouche fermée et le texte au verset 13 continue en disant « Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » On voit ici qu'il y a juste deux endroits, le dedans et le dehors, les ténèbres du dehors. Et lui était plus dedans. Il avait refusé ces vêtements-là qui lui avaient été offerts gracieusement. Et maintenant, il se retrouvait dehors. Il avait refusé. Les gens là, qui étaient peu d'élus, c'est ceux qui, devant le choix qu'ils ont eu à faire, une invitation libre à un privilège inouï, Tous ont fait leur choix, certains l'ont accepté, d'autres l'ont rejeté, et ce qui a fait en sorte qu'ils n'étaient pas des élus. Et c'est sûr qu'on voit la notion d'élu comme c'est quelqu'un qui nous élit, qui nous choisit, qui a fait de nous l'élection. Mais il y a aussi notre part de choix, aussi de responsabilité dans cette transaction-là qui fait en sorte qu'on n'est pas un élu parce qu'on l'a rejeté. Ce privilège-là, cette invitation-là. Ils étaient responsables d'obéir en acceptant les vêtements de noces. Un petit peu comme les Israélites étaient responsables aussi. C'était la 10e plaie d'Égypte, où est-ce qu'un ange destructeur allait venir tuer les premiers-nés de toute l'Égypte, même des animaux. Et ils auraient aussi tué les premiers-nés des Israélites, mais comme moyen de défense, Moïse leur avait instruit, Dieu leur avait dit de mettre le sang d'un agneau sur les montants de la porte, sur les linteaux, et que l'ange destructeur verrait le sang et passerait par-dessus. La Pâque, c'est ça, passer par-dessus. Mais ils avaient donc cette responsabilité-là. Ayant le choix, les Israélites ont exercé leur responsabilité en mettant le sang sur les linteaux de la porte, tout comme nous, on a le choix, et que ces gens-là ont eu le choix de se revêtir ou non des habits de noces. C'est simple comme moyen et c'est disponible. On a juste à l'accepter. Est-ce qu'on veut vraiment faire à notre tête et s'opposer à Dieu? Si nous appelle à venir à lui, pourquoi lui résister? Pourquoi vouloir faire à notre tête contre le maître de l'univers? Il me semble que ce n'est pas intelligent. Venons à lui. Et j'aimerais conclure avec deux choses. Qu'en racontant la parabole, Jésus s'est donné la peine hein, de raconter ces trois paraboles-là pour avertir même ses ennemis, pour les protéger du mal qui les attendait, des conséquences désastreuses qu'ils allaient avoir s'ils refusaient le Messie que Dieu leur envoyait. Jésus s'était dépensé pour ces gens-là, pour qu'ils puissent avoir le choix. Il leur a laissé le choix. Et puis, nous autres aussi, il nous demande d'inviter ceux qu'on côtoie. Et puis, si on n'a pas cette force-là, on n'est pas enclin, on peut au moins demander, donne-moi, transforme-moi, je veux être ton serviteur, puis je veux inviter ceux qui ne te connaissent pas. Mais transforme-moi, aide-moi, fortifie-moi. Et le deuxième point, c'est pour ceux qui n'auraient peut-être pas reçu l'invitation. Et je te dirais, fais-toi un cadeau. Fais-toi un cadeau aujourd'hui en commençant l'année. J'avais parlé un des méchants collecteurs d'impôts, Zachée. Et quand Jésus a passé par Jéricho, Zachée a reçu Jésus. Jésus s'est invité lui-même, mais il avait le choix, il aurait pu refuser. Et après, ça l'a transformé, Zachée. Le salut est rentré dans cette maison, puis Jésus a dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Et toi aussi, aujourd'hui, tu peux recevoir l'invitation. Ça dit dans l'hébreu, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Tu as un choix à faire face à l'invitation qui t'est faite. Est-ce que tu veux encore résister, t'opposer au maître de l'univers, ou de te dire, sais-tu, je pense que j'en aurais besoin. Ce serait une bonne affaire pour moi. Certains disent, des fois, j'avais entendu ça de quelqu'un, un adulte qui avait grandi dans une famille chrétienne et qui disait, moi, je suis pas contre, Si Dieu veut me sauver, ben, il va venir me chercher. Je n'ai pas de soins. Pour l'instant, c'est pas clair. C'est pas montré à moi. Et puis, ce que je trouve dans cette situation-là, c'est qu'on est responsable de faire ce qu'on peut. Je ne peux pas me sauver. Je ne peux pas m'inviter. Mais je peux vouloir l'invitation. Je peux vouloir être invité. Et j'ai cette responsabilité-là, quand il m'invite maintenant, de désirer être invité. Et il t'invite. Et est-ce qu'on n'a pas la responsabilité de le chercher? C'est dit dans Jérémie 29, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, je t'invite, je t'en supplie, fais-toi un cadeau aujourd'hui. Dis-lui merci pour son invitation et de te revêtir aussi, merci de te revêtir de ces vêtements de justice et qui te permettent de pouvoir un jour participer aux noces de l'agneau. On va prier. Et si tu veux recevoir l'invitation, je t'invite à prier avec moi. Seigneur, j'ai longtemps résisté, mais maintenant je veux venir à toi. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de ton secours. Et si tu as envoyé vraiment Jésus pour mourir pour mes péchés, j'en ai besoin. Et je le reçois, je l'accepte, je te dis oui. Et si tu m'as tellement aimé, ce ne sera pas pour me faire du mal par la suite et me demander l'impossible. Si tu me demandes des choses que je ne peux pas, je sais que tu vas me fortifier, me changer, me transformer pour pouvoir faire ce que tu veux. Donc, je te donne ma vie. Et je reçois ton amour, ton pardon, ton sacrifice à la croix. Sois loué, Seigneur. Dis-lui ces choses-là. Et je te prie aussi, Seigneur, de me soutenir dans mes peurs, dans mes craintes, de les chasser et de me donner ta paix. Je te prie dans le nom puissant de Jésus. Amen.